Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Ça tourne.
Moi, je veux du féroce actualité.
Faut pas de vraies informations pour vendre un journal.
Je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine ?
Non, je n'ai pas envie de voir du cinéma.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexis Yomé et vous êtes bien dans Super 16, car un vendredi ne saurait être réussi sans vos 16 minutes d'actu consacrées au cinéma en tout genre. Avec moi, mais resté à Paris, Antoine Corté de bulledeculture.com. Bonjour Antoine.
Bonjour, et oui, on est un peu les Andrea Bocelli et Hélène Segarra, on fait un duo sans se voir et sans se parler aujourd'hui.
Et oui, car je me trouve actuellement à Lyon pour cause d'un festival dont nous allons parler très certainement, car au programme de cette semaine, les trois mots-clés de l'actu ciné sont Révolution, Clash et festival au pluriel. Et nous finirons ensuite cet épisode avec le Quoi voir ce week-end, avec quelques choix fort bigarrés, mais toujours de bon goût. Super 16 saison 2 épisode 4, ça commence maintenant. Le 16 octobre 2017, je déclare la mort du cinéma. Faisons 10 secondes de silence en mémoire du cinéma. C'est ce qu'a déclaré le réalisateur danois Nicolas Winding Refn, ou NWR pour les aficionados, au Festival Lumière de Lyon, avant d'enchaîner avec le 16 octobre à 20h et 10 secondes, je déclare la renaissance du cinéma, applaudissons cette nouvelle invention.
Ah bah il déconne de plus en plus, tout va pour le mieux alors.
Oui, enfin le réalisateur iconoclaste s'est avancé comme le troisième frère Lumière à l'Institut Lumière, et pour parler du futur, car il annonçait que le second événement du cinéma s'appelle By NWR.com. Derrière cette adresse web se cachent en fait les bases d'une future plateforme de téléchargement et de streaming de films inconnus ou introuvables, neufs et vieux, et mis en avant par NWR en personne. Nous avons choisi comme terme révolution car, sur la même thématique, l'an prochain, il est annoncé que Netflix produira plus de nouveaux films originaux que Universal, Disney et Warner réunis. Le groupe Disney, Marvel, Lucasfilm vont d'ailleurs lancer leur propre plateforme et ouvrir la voie à d'autres grands studios qui auront eux-mêmes leur propre plateforme. Alors l'avenir du cinéma est-il dans le dématérialisé, Antoine ?
Alors là-dessus, moi j'ai changé un peu d'opinion au fil du temps. On en avait déjà parlé sur cette radio dans d'autres émissions. Et en fait, j'imagine effectivement l'avènement de Netflix, c'est très bien pour le cinéma américain indépendant. Sauf que là, j'ai l'impression que depuis quelques mois, on a quand même un développement de ces offres de cinéma indépendant et de ces offres en ligne, en tout cas, lorsqu'on a des films qui ne trouvent pas de distributeurs. Et donc, on a un amas et une proposition infernale de films qui sont uniquement montrés sur Internet. Et du coup, pour moi, il y a une conséquence qui est un peu néfaste, c'est que la multiplicité de ces offres viennent appauvrir les plateformes. Et donc, du coup, au lieu d'avoir une concentration sur une seule plateforme style Netflix, on a comme ça l'argent qui se délite. Et donc, j'ai l'impression que finalement, on va avoir une faillite de la plupart des plateformes et que un seul acteur va probablement ressortir sur le plan international. Il se peut d'ailleurs que ça soit Netflix. Mais donc du coup, ça change pas le problème, c'est que si les films n'ont pas envie d'être vus et si le public n'est pas derrière, finalement, on a toujours un problème économique qui est celui que le film ne pourra pas se produire. Voilà. Et toi, du coup, au niveau français, Alexis, je crois que tu as les mêmes infos pour la France.
Alors oui, j'ai pu assister à une keynote à Lyon donnée par Jérôme Soulet, directeur du département vidéo, télévision et nouveaux médias chez Gaumont, et qui nous a annoncé un peu de but en blanc que d'ici 5 ans, soit en 2022, fini les DVD, les Blu-ray et autres supports physiques, et que quasiment tout serait digitalisé dans le cyberespace. En gros, selon les statistiques aux États-Unis, pour la consommation actuelle de films à la maison, on est arrivé bientôt au 50-50 entre les services de plateforme en ligne comme Netflix face à l'achat de DVD, Blu-ray ou la location sur support. Et comme ils sont toujours un petit peu en avance sur les tendances mondiales, il serait temps qu'on se bouge un peu par chez nous pour éviter qu'on se prenne un gros retard monstre. Mais Antoine, tu te doutes bien de quoi je parle?
Alors oui, en fait, c'est très simple. C'est qu'en fait, en France, on a décidé de cadencer les exploitations des films selon en fait les plateformes sur lesquelles ils vont être disponibles. C'est-à-dire qu'on a une sortie salle qui est un temps zéro. Ensuite, 4 mois après cette sortie salle, on va avoir le film qui va être disponible en vidéo, Blu-ray, DVD et aussi sur toutes les plateformes de VOD. Et puis ensuite, vont s'enchaîner la fenêtre qu'on appelle la fenêtre Pay TV, donc Canal+ et OCS qui peuvent diffuser les films sur leurs antennes. On a ensuite les chaînes gratuites et puis étonnamment, et c'est ce qui est un peu rétrograde maintenant, on a Netflix qui arrive en toute fin, soit 32 mois après la sortie du film en salle, c'est-à-dire que Netflix ne peut pas diffuser le film avant cette période de 32 mois, ce qui est un peu long, en tout cas, notamment pour ces nouveaux acteurs de l'Internet.
Voilà, donc si on veut passer au nouveau millénaire pour voir des films chez soi, il va falloir que tous les acteurs du cinéma en France se mettent autour de la table à nouveau et rediscutent de cette chronologie des médias qui semble poser plein de problèmes à beaucoup de monde.
Comme dirait Denis Villeneuve, rendez-vous en 2049.
Ça me chatouille, ou plutôt ça me gratouille.
Ne confondons pas. Ça vous chatouille ou ça vous gratouille ?
Apparemment, ça a plus gratouillé et chatouillé entre Omar Sy et Éric Zemmour. Suite au clash qui s'est monté en épingle toute la semaine, l'acteur césarisé a décidé carrément de stopper net sa tournée de promo pour Knock, qui est sortie dans les salles ce mercredi. Alors, au départ, l'éditorialiste et polémiste Éric Zemmour s'était prononcé sur Omar Sy, répondant à un extrait où l'acteur le traitait de guignol sans le nommer. Zemmour a répliqué en disant que c'était flatteur d'être traité de guignol par un guignol, et tout s'est emballé. Ne voulant pas avoir son nom lié à celui de Éric Zemmour, désolé Omar si tu nous écoutes, mais l'acteur a dit stop. A-t-il eu raison, Antoine ?
Bon, bah alors ça fait très rire. Là, j'ai l'impression qu'on a deux guignols ensemble, finalement, l'un comme l'autre. Le débat est pas très élevé. Effectivement, Éric Zemmour, on le connaît, il est particulièrement détestable et pas forcément mesuré dans ses propos. Moi, je pense que Omar Sy a tort, finalement, de prendre autant à cœur les propos d'Éric Zemmour, surtout quand ça va être au détriment de la sortie de son film, parce que derrière, il y a quand même Knock qui est en jeu, et je pense que le film mérite qu'on en parle, ou en tout cas mérite que la promo continue. En tout cas, c'est véritablement quelque chose que il pourrait faire pour la réalisatrice Lorraine Lévy qui a passé X années à réfléchir à ce projet. Donc du coup, moi j'ai envie que on dépasse un peu cette polémique futile et qu'on reprenne le cours de la promo classique de Knock.
Il est souvent dans le top 5 des personnalités préférées des Français d'ailleurs.
Ah bah effectivement, Omar Sy, de toute façon, c'est l'icône depuis quelques années du cinéma français. Il a étendu son aura à l'international en jouant notamment dans Jurassic World. Moi, je suis assez étonné, en tout cas, du poids qu'il a auprès de la jeune génération, parce qu'il est véritablement adulé. Et moi, j'étais à une avant-première la semaine dernière en sa présence, et c'est véritablement tous les jeunes qui se jetaient sur lui pour prendre un selfie. Et en plus, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une personnalité qui est très agréable et qui paraît en tout cas toujours disponible, très avenant, et qui vient en plus d'un milieu assez populaire. Donc il sait ce que c'est que gravir les échelons, et il reste les pieds sur terre en tout cas. Et en fait, pour parler un peu du film, qu'est-ce que t'as pensé toi du film, Alexis ?
Je ne l'ai pas encore vu, mais je crois que Knock travaille ses premiers préjugés qui peuvent mener à pire d'ailleurs, Antoine.
Alors effectivement, c'est beaucoup l'œuvre d'origine, donc de Jules Romain, qui parle d'un faux médecin qui a un peu trafiqué ses diplômes. Et en fait, l'œuvre littéraire se passe dans les années 20, au moment de la montée du nazisme, et on est dans une circonstance de préjugés. Pour autant, Lorraine Lévy, la réalisatrice de Knock, ici, va bousculer un peu les codes de l'œuvre originelle, et notamment va projeter ce médecin dans les années 50, va, plutôt que de faire un film dramatique, va se lancer dans la comédie, et le médecin, du fait d'Omar Sy, va devenir noir. Pour autant, effectivement, les préjugés sont pas trop mis en avant dans ce film-là, et finalement c'est plus une comédie familiale avec des personnalités atypiques, par exemple Sabine Azéma qui est très drôle, plus que véritablement une ode aux préjugés. Voilà.
Bref, Éric Zemmour et Omar Sy ne passeront pas les vacances ensemble, et si vous voulez le voir, en tout cas Omar Sy au cinéma, Knock de Lorraine Lévy est actuellement dans les salles.
Je m'occupais du festival Moutard des cinémas.
Ah, c'est passionnant ça. Et ça parlait de quoi ?
De Moutard et de cinéma.
Oh, formidable.
Il nous reste encore un peu de temps pour une troisième news avant nos conseils pour quoi voir ce week-end. Et nous allons donc parler de festival au pluriel. Et toi Antoine, tu as choisi le Festival de Lumière de Lyon, où je suis d'ailleurs, qui remettra ce soir son prix Lumière au cinéaste hongkongais Wong Kar-wai.
Alors oui, effectivement, ce Festival Lumière qui est tenu par Thierry Frémaux, c'est un peu ce cinéma du patrimoine. Et moi, je suis assez étonné, en tout cas dans la programmation, de voir le courant que prend ce festival. Inviter Wong Kar-wai, qui est quand même un des grands personnages du cinéma asiatique. Mais moi, je suis aussi... J'ai entendu attentivement Tilda Swinton, qui est venue et qui a fait d'ailleurs des déclarations. Je ne suis pas actrice, je me laisse porter par le courant, je me laisse porter par des propositions. En tout cas, je suis quand même très intéressé par ce festival, parce que effectivement, il vient un peu hors toute promo, hors tout contexte d'actualité, poser une base sur ce qu'était le cinéma et ce qu'est le cinéma à travers ce qu'on a pu voir par le passé.
Si vous êtes encore sur la région lyonnaise, allez-y, car le Festival Lumière dure encore jusqu'à dimanche, avec encore plein de projections et de rencontres, et c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer.
Oui, bah alors toi, du coup, t'es au Festival Lumière aujourd'hui, mais pourtant, tu vas nous préférer le soleil levant.
Oui, j'ai préféré la Corée, mais la Corée du Sud à Paris, car je m'adresse à nos auditeurs qui seront sur la région parisienne la semaine prochaine pour venir au FFCP.
Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Alors le FFCP, c'est un rendez-vous que je ne manque maintenant jamais. C'est le festival du film coréen à Paris, soit un des rares festivals où en fait il n'y a quasiment que des bons films à l'affiche.
D'accord. Mais qu'attends-tu de cette programmation qui a l'air un peu particulière ?
Alors cette année, mes grosses attentes sont notamment le film d'ouverture de cette 12e édition, A Taxi Driver. C'est le gros succès du box-office cette année, en tout cas là-bas, où Thomas Kretschmann, donc acteur allemand, tient le rôle d'un journaliste allemand basé au Japon qui va se rendre en Corée du Sud, aidé par Song Kang-ho en chauffeur de taxi, qui va l'emmener dans la province de Gwangju où il y a un soulèvement étudiant qui est réprimé par l'armée. C'est un film qui a l'air super, évidemment j'ai pas encore vu, mais je surkiffe d'avance. Mes autres envies se porteraient sur des films plus historiques comme The Battleship Island, The Fortress ou des polars plus musclés comme VIP. Mais il y a aussi le Hong Sang-soo par exemple, avec Isabelle Huppert, La caméra de Claire, qui était à Cannes et sera projeté le dimanche 29 octobre au Publicis. Donc pour le Festival Lumière, il vous reste encore ce week-end pour en profiter. Quant à la 12e édition du Festival du film coréen à Paris, elle se déroulera au Publicis Cinéma en haut des Champs-Élysées du 24 au 31 octobre. Et sans transition, passons au Quoi voir ce week-end. Alors, tu nous l'avais mentionné lors de sa présentation au Show Web dans le précédent Super 16, et voilà qu'il sort en salle, c'est l'Assemblée de Mariana Otero, où tu y fais nuit debout, c'est ça ?
Alors, effectivement, l'Assemblée de Mariana Otero, c'est un documentaire qui a été filmé pendant les, j'ai envie de dire, peut-être les révoltes liées à la loi El Khomri sur le travail, où effectivement pendant presque 100 jours, on a des personnes qui se sont mobilisées sur la place de la République pour organiser une action contre l'adoption de cette loi. Et donc dans ce documentaire qui est assez fascinant, on remarque et on regarde un peu comment fonctionne une démocratie participative, et c'est assez impressionnant parce que il faut demander l'opinion de tout et à tout le monde, c'est-à-dire qu'on en est à se demander est-ce que on va voter pour faire un vote pour que l'Assemblée de ce soir va voter une décision qu'il faudra quand même soumettre encore une fois à l'Assemblée participative. Donc on n'y comprend rien dans ce système de fonctionnement, mais c'est quand même assez rigolo et assez marquant de voir comment des bénévoles peuvent autant s'investir dans une démocratie et dans des valeurs qui sont celles finalement qui sont la base de la France, qui sont celles de l'égalité, de la fraternité, tout cela dans un climat qui est véritablement bon enfant et un petit peu festif, parce que c'est ça surtout Nuit Debout, c'était aussi des concerts autour d'une réflexion politique et sociologique. Et alors toi du coup, Alexis, je sais que tu as choisi un film à Palme d'Or cette semaine.
Alors oui, de mon côté, j'ai choisi The Square pour trois raisons. D'abord, c'est la Palme d'Or de cette année, donc qu'on le veuille ou non, faut aller voir la Palme d'Or au cinéma. Deux, j'avoue, c'est un petit peu le seul film que j'ai vu cette semaine.
Ah oui, d'accord, on se la coule douce à lumière, on va plus rien voir après.
Ouais, bon, ça va, on se calme. Hein. Et puis, Et puis 3, c'est que je ne l'ai pas aimé, c'est tout.
Ah oui, ok, d'accord. Donc c'est de pire en pire. T'es pas là, tu nous conseilles un film que t'as pas aimé, mais ça va plus du tout cette émission.
Alors, qu'on s'entende bien, c'est pas une méga purge, d'accord ? Donc Ruben Östlund, le réalisateur, c'est un extraordinaire faiseur d'images. Son précédent film, Snow Therapy, était super bien filmé, mais ça m'en avait touché une sans faire bouger l'autre au niveau du sujet. Là encore, c'est très précis, c'est millimétré, c'est un vrai travail d'orfèvre scandinave. Je suis le premier à le reconnaître, mais le sujet m'a tellement désarçonné que j'en suis descendu du manège. En deux mots, le film suit la vie chaotique du conservateur du musée d'art moderne de Stockholm. Le film est censé se moquer d'ailleurs de ce petit monde bourgeois, de l'entre-soi, qui est complètement déconnecté de la réalité des choses. Mais moi, je trouvais en fait que, plus que d'être une satire, le film et son réalisateur, et le Festival de Cannes qui l'a élu d'ailleurs, correspondaient parfaitement à ceux qu'il est censé brocarder. En gros, Östlund aime bien jouer sur ce malaise, donc des fois ça fonctionne, des fois c'est trop long, au niveau de l'incompréhension générale des conventions, du protocole, qui est censé faire rire et nous jouer en mode satire, mais ça fonctionne pas à chaque fois. Et les gens qui sont extérieurs déjà à ce monde, qui sont extérieurs du petit monde de l'art, un petit peu des MoMA, des grandes expositions comme ça, ils resteront en fait en dehors de la fête. Quitte à se moquer justement de ces fameuses élites, je préfère me remater encore The Big Lebowski des frères Cohen, car au moins on se marre plus et au moins il y a de la bonne musique. Donc si vous préférez croire en un autre monde, voyez l'assemblée. Sinon, tentez la palme d'or The Square si vous pensez que j'ai tort. Car comme le disait Michel Blanc,
on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.
Super 16, c'est fini pour cette semaine. C'était encore un plaisir de vous retrouver. Antoine Corté, tu es sur bulledeculture.com et moi sur cloneweb.net. Super 16, c'est à écouter sur Séance Radio, mais aussi à réécouter en podcast sur SoundCloud, iTunes et tous les agrégateurs. N'hésitez pas à nous laisser vos conseils, vos avis, vos envies directement dans les commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouvel épisode de Super 16. Bon week-end à tous.
Ah, bon week-end.
Ça tourne.
Je veux du féroce actualité.
Faut pas de vraies informations pour vendre un journal.
Je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine ?
Non, je n'ai pas envie de voir du cinéma.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.